du château ressembla à une mitre épiscopale ajoutait encore au scandale. Les paysans, pourtant pressurés sans mesure par l'abbaye la plus proche, n'étaient pas vraiment hostiles au clergé, mais les orgies à la petite semaine où l'abbé entraînait leurs plus jolies filles les privaient à la fois de femmes et de main-d'œuvre. Plusieurs fois, il manqua de peu d'être écharpé en pleine nuit, alors que satisfait il pissait sur les parterres de roses en regardant vaguement les étoiles. Un jour, l'essieu du carrosse qui le ramenait vers Bourges en compagnie des vieux libertins de province qui partageaient ses joies se rompit et la voiture versa dans la boue d'un fossé. Pour finir, le mal de Naples l'emporta. Il avait brûlé la plus grande part de sa fortune, l'équivalent d'un comptoir entier de pots venus du Canada. Il ne laissait rien qu'un surcroît de pauvres à son évêque, un peu d'orgueil à ses descendants, et du regret sans doute aux belles de la paroisse. Château et jardin partirent à l'abandon. Le petit temple de Cnide au fond du parc, où la comtesse de N. avait servi, nu un dîner d'huîtres à ces messieurs, ne fut bientôt plus qu'un amas de pierres retournant au passé. Devant le dernier volet, Isabelle de Bussy passa ses mains sur son front. Il faudrait bien fermer ce volet et ignorer l'avenir. C'était une grande femme blonde et presque belle, banale et douce, dont les yeux brillaient parfois d'un reste des dîners de chasse de la Vendée ou de l'Anjou, lorsqu'elle était jeune fille dans un monde qui prétendait ignorer l'Empire finissant et ses mauvaises manières. Médiocre parti, serre forcé, liberté de propos, vin de la Loire, et par-dessus l'imitation, comme un cilice pour le rêve, les pieds des pianos encapuchonnés de blanc. Tout en s'éloignant de la fenêtre, elle fit revenir, pour se distraire, quelques souvenirs de sa jeunesse, les rues de Saumur aux odeurs d'acide hippurique et aux demi-dieux de l'école, peints en noir et si beaux, la maison dont le tuffeau gris marque les années en s'effritant, les premières promenades à cheval vers Saint-Florent, avec le coup de l'étrier dans une guinguette, le ciel changeant à chaque volte sur le manège du Chardonnay, une aventure sans lendemain. Les souvenirs rencontrèrent un jeune homme vêtu du drap bleu de l'infanterie coloniale, et Madame de Bussy descendit les marches du perron, où les Lalandais montaient dans la chaleur de l'été. L'herbe était jaune et l'arbre planté pour son retour de Thuyen Kang déjà bien haut. Ils avaient étendu le parc, dessiné quelques allées, fait quelques visites et disposé des moutons au hasard des pelouses. Très vite, le colonel avait gagné sa chambre. Alors qu'elle passait devant la serre menacée par la rouille, sa résolution vacilla. Tout, jusque-là, avait été facile. La douleur était en elle, et ni le cercueil fermé du colonel, ni les rares amis, parce qu'ils étaient leurs amis et qu'ils étaient si peu, ni le peloton de gendarmerie, capitaine et drapeau vierge de décoration, assemblés au chevet de l'église, n'avaient bousculé sa réserve. Les années d'absence avaient reporté à plus tard plus que les sentiments, la vie même. À présent la mort brouillait les cartes. Elle avait cru qu'il l'ennuyait à raconter les nuits glacées de garde au fleuve, les courtes files de fantassins progressant entre les maisons surélevées dans le grognement des cochons noirs et la cruauté des bandits chinois, les officiers de marine adonnés à l'opium. Elle avait douté qu'un soldat pût marcher en dormant, calé entre deux camarades. Elle s'était souvent endormie pendant qu'après dîner, faute de savoir parler, il chantait à voix basse ces chansons mélancoliques que les forçats et les militaires ont en commun. Plusieurs fois elle avait commis, comme on dit à la messe, l'adultère dans son cœur. À présent elle le comprenait, elle était bien près de l'aimer, et pour la première fois peut-être, elle savait le sens qu'on peut donner à ce mot. La forêt lui parut tout d'un coup inquiétante, ce vert aux tons différents étouffant leur maison. Les jours de pluie, elle s'y promenait seule, et assise au pied d'un tronc, se perdait en esprit entre les arbres rapprochés par l'orage, et les filets d'eau glissant de feuille en feuille formaient des cascades au bruit terrifiant. Elle avait appris, en allemand, la fable de ce bénédictin d'Esterbach, devenu immortel pour avoir écouté dans les bois le chant d'un oiseau en lequel s'était incarnée l'éternité. Sans le dire, le colonel comprenait ses bizarreries. Au fond, il n'avait pas lui-même recherché autre chose. Au milieu du bois, Une dame vieillissante, un peu grave, s'assit et regarda passer entre les branches la lumière poussiéreuse de l'été. Elle ne finirait pas le salon vert en forme de rotonde ouvrant sur le parc, où l'abbé paraît-il commençait ses parties et qu'eux-mêmes avaient déserté pour se réfugier dans la bibliothèque, tant la frivolité du décor les gênait. Elle voulut prier, mais le mal et le bien sont sans raison, et le divin se prodigue quand il n'est pas attendu. Elle était vraiment seule, et dans le soir qui tombait, ne se retint plus de pleurer. Nathanaël de Bussy, l'esprit tout occupé de la mort de son cousin, poussa la porte de la librairie des Deux Mondes, place Saint-Sulpice, où il avait des habitudes. Il se souvenait de l'Amérique et le nom de la librairie lui plaisait. M. Pierre, le libraire, n'avait cure de l'Ancien ou du Nouveau Monde, de Dvorak, des Mormons et des Poroges et de la Caroline du Sud. Il aimait seulement les livres et n'avait pas voulu changer le nom de l'endroit. Il pensait, avec une naïveté feinte, que les lieux ont un génie que l'on pourrait fâcher en le déroutant et déclencher des catastrophes. Il disait ces choses-là en souriant. La librairie s'étendait sur deux étages à l'angle de la place, et cette disposition lui donnait un charme particulier. Pour y entrer, il fallait pousser une porte à grillage et se courber un peu. Le rez-de-chaussée était sombre. Sur de grandes tables rectangulaires, les amateurs pouvaient feuilleter les livres rares retirés des rayons. Au premier, la lumière donnait mieux sur celle des reliures qui demandaient, pour se conserver, un peu de jour. On avait aussi rangé là le fonds de spécialité de l'ancien propriétaire, auquel Pierre ne comprenait rien mais dont il aimait les titres. C'étaient des livres de mathématiques, et les clients qui les cherchaient se passaient tout à fait de conseils. Sitôt descendu de son échelle, Pierre tendait toujours avec plaisir.